I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Binge audio.
Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
Salut à toutes et tous, bienvenue dans Flashback, notre hors-série estampillée nos ciné. On prend quelques dizaines de minutes pour remonter l'histoire récente du petit et grand écran en picorant. En ce qui nous concerne, là tout de suite, dans le catalogue de Star, la nouvelle rubrique de Disney+, le sponsor de cet épisode. C'était un temps déraisonnable, on portait parfois des vestes de costard sur des t-shirts à message, on mettait bien trop de gel dans nos cheveux, on écoutait Interpol, les Libertines et Franz Ferdinand, et on s'est mis les uns et les autres, surtout les d'ailleurs, a lancé des très fatigants Legend, Wait For It, Dairy. À tout bout de champ, c'était le milieu des années 2000 et c'était donc les années How I Met Your Mother, époque où la sitcom de CBS régnait en maître sur la comédie télévisée américaine et où on la désignait déjà comme la successeur de Friends. 7 ans après sa fin, alors qu'une nouvelle génération s'apprête donc à la découvrir, qu'est-ce qu'il en reste? Pour en causer, deux camarades autour de la table, ici avec moi, Aurélia Baranès. Salut Aurélia.
Salut.
Et David Honora. Salut David.
Salut Thomas.
Flashback par nos ciné spécial How I Met Your Mother, c'est parti.
Fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
Il vous en reste quoi, les amis, l'un et l'autre de cette série, David?
Comme tu l'as dit en intro, on était un petit peu à l'époque orphelin de Friends, qui était vraiment la sitcom phare et celle, en tout cas en ce qui me concerne, qui m'avait fait découvrir les séries américaines auxquelles on pouvait devenir accro. C'est vraiment une sorte de substitut de Friends à How I Met, parce qu'on retrouve les célibataires new-yorkais qui squattent, alors cette fois dans un bar, et c'est beaucoup plus alcoolisé que Friends.
C'est plus nocturne.
Et ce côté substitut, mais qui y a eu un ajout qui est assez essentiel, c'est une structure, une promesse scénaristique qui est donnée dans le titre, Comment j'ai rencontré ta mère, et qui ajoute en fait au récit un petit côté whodunit où on va scruter tous les épisodes à la recherche de qui va vraiment finir avec Ted. Et ce côté original, innovant, m'avait vraiment bien accroché, en tout cas sur les premières saisons. Après, on va en parler, mon intérêt a un petit peu baissé au fil de la série, mais ça reste une série vraiment phare de cette époque, qui est une époque vraiment particulière.
Tout à fait, tout à fait. Aurélia?
Oui, mais je suis d'accord avec toi pour le coup. C'est pour moi en tout cas une des dignes héritières de Friends. Et même si elle a été énormément critiquée sur le fait, on n'a pas arrêté de dire qu'elle copiait Friends, ce qui n'est pas du tout le cas. Finalement, c'était vraiment plus un hommage. Et pour le coup, les showrunners l'ont assumé et l'ont dit maintes reprises qu'ils étaient fans de Friends et qu'ils avaient envie justement de s'approprier et de rendre un peu plus moderne finalement cette bande de potes qui ne traînent pas dans un café mais dans un bar, avec les histoires qui vont parfois un peu plus loin dans les dates, etc. Et j'ai trouvé que c'était un pari intéressant et pour le coup un pari réussi.
Alors, puisqu'il est question ici de patrimoine, d'histoire récente certes, mais d'histoire quand même, impossible de ne pas s'intéresser aux archives autour de notre série du jour, et en particulier à celle qu'on préfère, David, une archive qui ne nous rajeunit pas.
Alors, ça ne nous rajeunit pas du tout, hein, parce que alors, au début, je me suis plongé dans les archives des années 2000 à la recherche de quelque chose d'intéressant sur les premières saisons d'How I Met. Et en fait, j'ai un petit peu galéré. Finalement, leur passage en talk show, ça a plus été autour du dernier épisode, etc. Et donc, il n'y a pas tant de ressources les débuts d'How I Met Your Mother. J'ai même failli vous passer une chronique dans une émission de Stéphane Bern sur France Télé.
Incroyable.
Qui vantait les mérites de How I Met Your Mother. Et finalement, je me suis rabattu vers complètement autre chose pour faire un petit focus sur Neil Patrick Harris, donc qui joue Barney Stinson dans la série, qu'on retient un peu comme le personnage phare, le personnage culte de la série, même si je pense qu'on va en débattre. Et ce que je trouvais intéressant, c'était de voir que, pour le coup, c'était lui un acteur déjà assez expérimenté, qui a commencé très tôt. Et ce qu'on va entendre, c'est son tout premier rôle au cinéma. On est dans un film de 1988 de Robert Mulligan, quand même un grand monsieur.
Grand réalisateur.
C'est le secret de Clara. Il a 15 ans, il partage l'affiche avec Whoopi Goldberg. Et là, on va les entendre chanter ensemble, avec au milieu un petit solo de Neil Patrick Harris.
Come on, David. Come on, sing. No, you gotta sing with me. No, come on, you can do it. All right. Clara and me, we will come in at the top with you, okay? Okay, here we go now. Let the girl go home. Let her go right home. She's underage. She's not fit for the picture. Let the girl go home. Let her go right home. She's underage. She's not fit for the picture.
All right,
only adults can go. See the street corner show. I'm the one little boy my mommy ever had. He's the one little boy his father ever had. Let the girl go home. Let her go right home. She's underage. She's not fit for the picture. Let the girl go home. Let her go right home. She's underage. She's not fit for the picture. He's underage. He's not fit for the picture.
Ça s'arrête jamais.
Oui, donc Neil Patrick Harris, donc ça fait partie des acteurs les plus expérimentés de la série. On l'a retrouvé avant et après aussi dans des grands films. Il joue dans Starship Troopers, on l'a vu plus tard dans Gone Girl.
Oui.
Il devrait être à l'affiche de Matrix 4 aussi.
Normalement.
Voilà, donc ce que je voulais vous demander, c'est quel est votre rapport à Neil Patrick Harris. Est-ce que vous pensez qu'il a beaucoup apporté à la série et de manière plus générale avec le personnage de Barney, qu'est-ce que vous en pensez,
Aurélia?
Mais moi, j'aime beaucoup pour le coup Neil Patrick Harris, que j'ai vraiment personnellement découvert dans How I Met Your Mother, parce que je ne connaissais pas Dr. Dougie et ses précédents rôles, je le connaissais moins en tout cas, et il l'a très bien porté. C'est vraiment quelqu'un qui est, pour le coup, et on le voit dans ses rôles quand on regarde un peu plus près sa carrière, c'est quelqu'un qui est complètement habité par ses personnages. Donc Barney, c'est absolument lui, quoi, et c'est vraiment, il a donné vie à une personnalité qui est quand même très forte et qui a ses tocs, ses faiblesses, ses forces, etc. Et je trouve qu'il a vraiment très bien fait, pour le coup.
Moi, c'est vraiment un souvenir télévisuel enfantin, Neil Patrick Harris, parce que Dr. Dougie, ça devait passer sur France 3, je pense, quand j'étais gamin. Et j'étais fasciné par cette série, vraiment, littéralement. La petite musique au synthé, la tout le truc où il faisait son journal. D'ailleurs, il y a une référence méta dans un épisode de I Met Your Mother où il fait son journal et ils ont mis la musique de Dr. Dougie. Je crois que j'avais eu un espèce de petit frisson enfantin à ce moment-là,
devant cette scène,
voilà,
exactement
comme dans la série. Et c'est ouais, moi c'était un vrai souvenir, et le fait de le voir adulte et dans un rôle très adulte pour le coup, parce que c'est bon, Barney c'est le womanizer, celui qui parle tout le temps de sexe en gros, même si il se complexifie un peu au fil du temps, mais au début c'est quand même ça son personnage. Et c'est vrai qu'au début, comme je calquais encore ma perception de l'acteur enfant, du prodige enfant, justement très innocent,
qu'est-ce qui est devenu
dans Dr. Dougie, c'était un peu genre, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Dougie? Ça va pas du tout. Et donc voilà, donc j'ai eu du mal au début, puis finalement je m'y suis fait très fortement. Si on reste sur le cast de la série, on l'a oublié, mais on a commencé à le dire, mais à l'origine, les deux stars, donc les deux visages les plus connus, c'est pas Jason Segel, qui est devenu depuis très célèbre, c'est pas Cobby Smulders, qui pareil a gagné avec les Marvel une reconnaissance très large. C'est donc Neil Patrick Harris, on vient d'en parler, et aussi Allison Hannigan, qui était encore dans pas mal de têtes, dont la mienne en tout cas, Willow de Buffy. Sur ce cast, c'était quoi votre point de vue, votre appréhension au tout début quand vous avez découvert la série, Aurélia, tiens, par exemple?
Moi, personnellement, j'avais commencé la série pour deux raisons. Déjà parce qu'on m'a dit « Friends te manque », parce que c'était vraiment l'héritière. Donc ça a commencé un an après la fin de Friends, il me semble. Donc c'était parce que c'était le nouveau Friends,
c'était
et pour Allison Hannigan. Très
pour
clairement,
Allison,
voilà.
Hannigan. Ouais.
C'est pour elle que je suivais, parce que Buffy, évidemment, même American Pie à l'époque, qu'on aimait beaucoup, et elle qui avait vraiment son rôle très particulier. Mais j'avais commencé aussi pour elle.
David?
Ouais, moi qui suis un profane de Buffy, qui ne connaissait pas
vrai
du tout à l'époque,
pas.
Pour moi c'était la fille d'American Pie, donc c'était assez particulier de la retrouver dans un rôle quand même assez différent. Moi je trouve le cast hyper équilibré. Donc là, on a pas mal parlé de Neil Patrick Harris, mais effectivement, tous les autres, en fait, finalement, à part l'acteur qui joue Ted et dont j'oublie toujours le nom.
Josh Radnor.
Le pauvre, c'est celui qui vraiment n'a pas eu de carrière, alors que ça soit Jason Segel. Alors, Jason Segel, il avait déjà été dans Freaks and Geeks,
déjà un proche de la bande de Judd Apatow.
C'est ça. Il avait un peu son avenir tracé dans la team Apatow. Et mine de rien, de toute façon, sur ce genre de sitcom, ça ne pardonne pas. Ça repose énormément sur le talent des acteurs et le talent respectif des acteurs dans des styles de personnages et des styles comiques très particuliers. Moi, je trouve que Jason Segel est vraiment extraordinaire dans son rôle. On va en reparler quand on va évoquer les personnages, mais il y a un côté... une sorte de fusion justement entre Ross et Chandler qui est assez réussi et clairement je pense que Neil Patrick Harris apporte un truc et un magnétisme autour de son personnage qui, même si la manière dont le personnage est écrit aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui ont quand même assez mal vieilli, lui il a un bagou et même en fait le personnage est tellement éloigné de ce que, a priori, l'acteur, lui, est dans la vraie vie, qu'on peut même y voir une forme de satire de l'hétérobeauf qui aligne les conquêtes et qui traite les femmes comme du bétail, quoi. Donc, il y a un truc assez sympa dans ce casting. Et la grande question, c'est qu'est-ce que ce pauvre Ted va faire de sa vie maintenant.
Josh Radnor, c'était un pis-aller dans ce casting, ou c'est un personnage auquel t'as fini par t'accrocher, Aurélia?
Disons que j'ai rien contre Josh Radnor, mais effectivement le personnage de Ted, je le trouve assez insupportable de toute façon, et je pense que c'est le cas de la plupart des fans de How I Met.
C'est paradoxal, parce que c'est censé être le personnage principal,
celui
qui drive l'intrigue. Ouais.
Voilà, ouais. C'est clair. Mais finalement, c'est ce que j'aime bien dans la série, c'est que c'est aussi le cas de beaucoup de très très bonnes séries. Les personnages secondaires prennent le dessus sur le principal, mais finalement, lui, on est intéressé évidemment par sa quête de la Mover, on a envie de savoir, on a envie d'avoir la réponse, mais on se rend compte quand même au bout d'un moment que c'est pas le mec le plus sympa de la planète et on est là à critiquer Barney, mais finalement si on regarde le tableau de chasse, il est certes pas au niveau de Barney, mais il traite les femmes après de la même manière.
Il est pas loin derrière. On l'a dit aussi, comme pas mal de sitcoms, le show il fonctionne sur la répétition et sur les gimmicks. Alors déjà l'ouverture, la petite intro qui est dite par Bob Saget d'ailleurs, faut quand même le dire, dont on entend juste la voix, qui est censée être le Ted du futur, et puis toutes les blagues récurrentes, les concours de baffes, les tirades de Barney, etc. La différence, peut-être, ça aussi on en a parlé, c'est l'enjeu, parce que on est tenu en partie par l'attente de savoir à quel moment Ted va rencontrer la femme de sa vie. Est-ce que ça finit pas un peu par passer au second plan? C'est ce que tu commençais à dire, Aurélia.
Oui, disons que c'est bien parce qu'on a un fil conducteur. Donc, je trouve ça intéressant, notamment dans une sitcom, d'avoir un vrai fil conducteur et d'avoir des vraies intrigues. Et justement, c'est là où le scénario a quand même été très fort. Peut-être un peu long, mais en tout cas, ça a été très fort de vraiment nous tenir en haleine, parce qu'ils ont réussi à ajouter du cliffhanger, ils ont réussi à vraiment nous mettre dans une intrigue, on l'attend, etc. Mais évidemment, au bout d'un moment, on ne regardait plus vraiment la série pour ça, on voulait l'attendre, mais voilà, on était là pour voir Barney, pour voir Ted et Robin de temps en temps, et surtout Marshall et Lily.
David ?
Ouais, non, mais c'est clairement... on est sur ce truc paradoxal entre ce fil rouge qui crée l'adhésion et en même temps le plaisir de la sitcom, c'est retrouver des personnages qui ne bougent pas d'un iota.
Côté familier, quoi.
Et voilà, ouais, on sait à quoi s'attendre à chaque fois.
Forcément, revisiter How I Met, c'était son petit nom chez les fans, n'est-ce pas? C'est l'occasion de faire le plein d'anecdotes plus ou moins connues, voire complètement inconnues, Aurélia.
Alors, je ne suis pas allée dans l'anecdote forcément inconnue, mais ce que je trouve absolument fascinant, parce que j'adore ça, mais surtout très intéressant, c'est le fait que les showrunners ont toujours adoré, quand ils regardaient des séries, découvrir les petits détails, ce qu'on appelle les easter eggs. Et il y en a vraiment énormément dans How I Met Your Mother. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pu voir la série 3, 4, 5 fois sans s'en rendre compte. Et tout est vraiment dans le détail. Quand on est dans le futur, on voit par exemple Marshall qui a derrière lui un cadre avec une petite revue, un journal. Et on voit qu'en fait Marshall a attrapé le monstre du Loch Ness, qui est la fascination première de Marshall, qui, on pense, est la seule personne sur Terre qui est persuadée que ce monstre existe. Et il l'a attrapé rattraper dans le futur. C'est hyper intéressant. À un moment, Ted raconte qu'il a rencontré une stripteaseuse qui s'appelait Tracy en disant « Et c'est comme ça que j'ai rencontré votre mère. » Et les enfants qui réagissent, c'est parce qu'elle s'appelle Tracy comme la mère dans How I Met Your Mother. Donc c'est vraiment plein de détails. On nous en donnait depuis le début. Il y avait des petits indices par-ci, par-là. Et je trouve ça hyper intéressant de voir ça. Surtout quand on le sait et qu'on revoit la série ensuite. C'est assez chouette.
Il y a une chasse aux œufs possible. Exactement. À faire dans Emmett. C'est le moment où normalement on dégaine le petit questionnaire habituel qu'a concocté David de Nora, qui nous permet de détricoter notre rapport à la série. Alors, je vous propose qu'on y aille tout de suite, tout de go. Quel est le meilleur personnage? Alors moi j'ai noté Barney, forcément, parce que c'est la réponse évidente. J'avoue également un faible très prononcé pour Marshall. Je pense que David, je crois que c'est un peu la même chose pour toi.
Marshall. Avec le recul, je sais pas si on est tous voués à devenir un peu des Marshall, mais j'ai l'impression que c'est un peu la trajectoire que j'ai fini par prendre, alors qu'à l'époque
tu te voyais plus comme Barney.
Je sais pas comment je me voyais, mais en tout cas pas comme Marshall. Ce que je trouve marrant avec Marshall. D'abord, c'est la prestation de Jason Segel et il a un timing comique, des expressions, plein de qualité de comédien qui sont vraiment parfaites pour le rôle. Et ce que je trouve marrant dans son personnage et dans son couple, c'est que c'est un petit peu, si on fait justement le parallèle avec Friends, c'est comme si Ross avait été en couple avec Monica. Et en fait, c'est ce truc qui ne pouvait pas exister dans Friends et qui, en plus, enfin, en fait, serait presque évident avec les caractères des personnages dans Friends et en fait, qui est réalisé là-dedans. Donc, en fait, ils sont à la fois très énervants et très attachants entre eux. Et il y a ce côté un petit peu autobiographique pour les créateurs de la série où, en fait, c'est deux amis new-yorkais, dont un était célibataire et l'autre était marié avec sa copine du lycée. Et cette dynamique, je trouvais intéressante et fonctionne bien. Et on sent qu'il y a un côté un peu, il y a du vécu et un côté réaliste derrière, et c'est très très bien incarné par Jason Segel.
Aurélia.
Moi je suis d'accord avec toi, Marshall est mon personnage préféré. Pour le coup, j'aime énormément Lily aussi. Mmh. Et je trouve que la dynamique de couple est vachement intéressante dans cette série parce qu'ils ont beau être, comme tu le dis, en couple depuis le lycée. Ils font quand même rêver. Il y a vraiment ce côté où on n'a pas du tout le côté du couple un peu plan-plan ensemble depuis tout ce temps. Ils sont hyper drôles. Ils ont une complicité qui est vraiment incroyable. Et je trouve que les deux évoluent vachement bien ensemble. Mmh.
Le twist de la fin de la première saison qu'on n'avait pas vu. Enfin, moi j'avais pas vu venir personnellement.
Non, moi non plus.
Et ça remet là aussi de l'enjeu dans cette relation-là qui, a priori, n'en avait pas tant que ça.
Ouais, ça a été intéressant de jouer là-dessus.
C'est quoi la meilleure scène ou le meilleur épisode, Aurélia?
C'est difficile de trouver un épisode préféré dans OML, parce qu'il y en a vraiment plein qui sont très bien écrits, mais j'adore un épisode, c'est dans la saison 1, l'épisode 10, qui s'appelle The Pineapple Incident, où déjà, je trouve ça absolument génial, ce côté, le mec se réveille, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, il y a un ananas à côté de lui, on ne sait pas d'où vient cet ananas. J'aurais bien aimé qu'on n'ait jamais la réponse, d'ailleurs.
On a fini par la voir.
La saison 9 donne la réponse. Je me suis forcée à l'oublier d'ailleurs. Je préfère qu'on ne sache pas, en fait, je trouve ça absolument génial.
Je m'en rappelle, mais je ne te le lirai pas du coup.
Et j'aime bien ce côté où on remonte la soirée au fur et à mesure et le mec est complètement ivre et il ressort et machin. Enfin, je trouve que c'est un épisode vachement bien et celui-là, il représente bien OMS en Mover, en fait. Le fait de revenir en arrière et d'avoir cette espèce de puzzle qui prend pièce.
Moi, mon préféré, c'est un des plus mémorables, c'est un évident, c'est le Slap Bet. Donc, c'est l'épisode 9 de la saison 2. Il y a à la fois donc, le concours de baffe dont je parlais tout à l'heure, qui, moi, c'est un truc qui me fait toujours rire. C'est idiot, mais c'est du slapstick de base. Mais avec Marshall et Barney, ça fonctionne très bien. Et puis, il y a surtout la révélation du passé musical de Robin. Et donc, son passé de popstar canadienne et cette chanson Let's Go to the Mall qui, quand même, a marqué, je pense, un peu une génération, David.
Moi, j'ai revu cet épisode parce que, en fait, moi, je suis rentré dans la série par cet épisode, pas en voyant cet épisode en premier, mais parce que un ami à l'époque m'avait présenté la série en me racontant cette histoire du slap bet et cette idée vraiment géniale qui justement crée du feuilleton au-delà de l'épisode en disant il y a d'autres baffes qui vont tomber à un moment,
et ça
c'est vraiment une super idée scénaristique. Donc j'ai revu l'épisode qui est assez chouette avec la séquence de fin Let's Go to the Mall.
Clip improbable.
Mais du coup, moi, c'est pas mon préféré parce que le truc était un petit peu dévoilé quand je l'ai découvert. Et moi, mon épisode préféré, c'est dans la saison 3. Je trouve un épisode typique. de l'écriture de How I Met, qui est toujours, enfin, la plupart du temps, un récit à l'intérieur d'un récit, et on les retrouve la plupart du temps, en fait, dans le bar, en train de raconter quelque chose. Et on suit avec une dramaturgie un petit peu décalée. C'est l'épisode 13 qui s'appelle Ten Sessions, et c'est celui où il rencontre Stella, qui est jouée par Sarah Chal, qui est Elliot dans Scrubs. Je connaissais Scrubs avant How I Met. Je regardais avant, parce que donc, du coup, je regardais en décalé. Et j'étais déjà fan d'elle. Il y a Britney Spears en réceptionniste, ce qui n'est pas rien.
Un rôle formidable. Elle est vraiment formidable.
Elle est vraiment bien. Ouais. Free Britney, d'ailleurs, au passage. Et du coup, il y a ce truc. Enfin, il y a un petit peu tout dans cet épisode. C'est-à-dire qu'à la fois... Du coup, on a les dissections avec cette médecin qui est censé effacer
un tatouage
dans le dos de Ted.
Un papillon,
un papillon dans le bas du dos.
Magnifique.
Voilà. Trump stamp.
Et puis, il y a cette séquence à la fin où il lui organise un rendez-vous en deux minutes, qui est aussi typique de genre de petite performance qu'on va avoir dans I Met Your Mother. Donc, je trouve que c'est un épisode qui est vraiment qui illustre bien le côté à la fois créatif et ludique de la série. Et je trouve que le personnage de Stella, qui va devenir un personnage un peu récurrent, est un très bon personnage.
Qu'est-ce qui manque à la série à How I Met pour être vraiment parfaite? Moi, j'ai noté une fin un peu moins pourrave et une saison en moins, éventuellement, Aurélia.
Oui, bah, j'avais noté deux saisons en moins.
Ah oui, carrément.
Alors, moi, j'avais noté trois saisons en moins.
Beaucoup moins de saisons.
Bah, non, mais c'est vrai que, on en parlait tout à l'heure, c'est bien d'avoir un fil conducteur, mais au bout d'un moment, sachant que plus on approche de la réponse, plus on joue là-dessus. Et il y a un moment où ça devenait un petit peu lourd, et finalement, c'était aussi un pari risqué de faire toute une saison sur un week-end qui durait au final. Un week-end, parce que c'est le mariage, le fameux mariage. Et c'était un peu, effectivement, dommage, parce que ça peut commencer à prendre un peu en longueur, quoi. Donc, je trouve que ça méritait de s'arrêter un petit peu plus tôt, effectivement, pour être vraiment parfaite.
Moi, j'avais noté, en fait, trois saisons et deux minutes de trop. Parce que moi, je trouve aussi que les deux dernières minutes de la série, en fait, même gâchent un truc qui fonctionnait comme ça.
Tu veux dire la toute révélation de toute fin, quoi.
Cette
scène qui a été tournée en fait au tout début en plus, parce que donc ils sont plus jeunes.
Cette erreur en fait se justifie par la manière dont ça a été produit, le fait que ils ont pensé. Enfin, on va pas trop donner de détails parce que ça peut être sympa de le découvrir, pas se faire spoiler, mais ça a été écrit à un moment où la dynamique de la série était différente, les attentes, je pense, du spectateur lambda auraient pu être différentes à ce moment-là. Et en fait, ils réussissent à construire quelque chose de super avec une actrice en plus qui est géniale. Enfin, il y a un truc qui fonctionne et il y a ce truc en plus en fait qui tombe comme un cheveu sur la soupe et qui, à mon sens, fonctionne pas. Mais en fait, tout l'intérêt avec maintenant avec le streaming et en regardant les épisodes sur Disney+, vous pouvez vous faire votre propre montage. Hein, en fait, vous sautez les saisons.
Vous arrêtez au moment.
En fait, c'est le paradoxe de la sitcom, c'est-à-dire que au bout d'un moment, les codes sont tellement intégrés que ça peut durer indéfiniment ou s'arrêter plus tôt. Et voilà, il va y avoir des bonnes idées à des moments. Et peut-être que ça a duré un petit peu trop longtemps. Et en même temps, si ça a duré, c'est parce que ça marchait bien. Donc, c'est ça la difficulté.
Et il y a quand même dans les scènes que j'avais notées les plus mémorables, il y a la scène où Marshall, justement, se rappelle de son père en train de conduire.
Oui.
Et où il le regardait dans le rétroviseur, qui était un truc humain. M'avait vraiment beaucoup touché à l'époque. Et ça, pour le coup, c'était des choix qui étaient intéressants, je trouvais, effectivement, dans une sitcom assez ambitieux, pour le coup. Ouais.
Et Jason Segel ne savait pas, d'ailleurs, que le personnage du père de Marshall allait mourir.
Ah oui.
Donc il l'a appris au moment où Lily est arrivée et lui a annoncé. Et sa réaction est vraie.
C'est du naturel.
Ouais, c'est vachement bien.
Qu'est-ce qui a le mieux ou moins bien vieilli, pardon. Moi, j'ai noté que clairement certaines vannes avaient pris dans la gueule depuis, depuis le temps a passé. C'est pas toujours super woke, Aurélia.
Oui, c'est ça. Bah, je pense qu'on s'en est rendu compte assez vite aussi, parce que la série n'est pas si vieille. Mais même, forcément, Barney, c'est devenu toute une blague, même son playbook ou des choses comme ça.
Oui.
Je pense qu'aujourd'hui, quand on le revoit, on se dit quand même, le mec est un manipulateur, un psychopathe, tout. Donc, on peut en rire et en même temps, je peux totalement comprendre que ça dérange aussi.
Oui, David ?
Oui, et en même temps, on peut aussi pardonner la série parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus difficile pour une sitcom, c'est de durer dans le temps, en fait. Mmh. Enfin, surtout avec autant d'épisodes qui rebondissent sur, justement sur l'air du temps, etc. Au bout d'un moment, on n'est plus raccord avec son époque et c'est assez logique, je pense.
Très bien.
Ah non, je croyais que
j'avais pas capté que c'était la fin de ta phrase. Pardon, excuse-moi. Est-ce qu'on pourrait faire un remake de How I Met Your Mother aujourd'hui ? Alors moi, je suis opposé à l'idée même de remake en général, vous le savez, mais Aurélia.
Je suis assez opposé à l'idée de remake parce que surtout sur la sitcom où finalement je me dis, ça dépend tellement des comédiens, ça dépend tellement des showrunners, des blagues sont écrites que si vous avez tous ces bons ingrédients pour le faire, faites-en une autre en fait. Faites nourrir avec autre chose. Et pour le coup, Emmett est passé à deux doigts d'avoir son spin-off qui s'appelait How I Met Your Father, oui, qui a été commandé puis finalement annulé.
Puis re-annulé.
Tant mieux, je pense qu'à un moment où il faut réussir à suivre les signes et à les écouter, et il fallait pas aller là-dedans. Ouais. Donc je serais contente.
Il peut ressurgir à tout moment, par contre. Méfions-nous.
Oui, c'est vrai. Toujours dans les tiroirs. Après, il peut toujours y avoir des remakes plus ou moins déguisés. En tout cas, en fait, en redécouvrant la série, et justement ça fait écho à ce qu'on vient de dire sur tout ce qui a vieilli, c'est que la même trame, tout sera intéressant de confronter à la redistribution des codes amoureux, à justement comment les comportements changent. Et je pense qu'on peut avoir des personnages tout aussi marrants qui sont en fait plus raccord à la manière dont on vit les relations de couple aujourd'hui, etc. Dont on vit le célibat. On pourrait avoir un super épisode de How I Met avec une sorte de Barney d'aujourd'hui qui drague pendant le confinement. Je sais pas, mais
ça aussi, ça vieillira très mal.
C'est clair. Non, mais globalement, c'est la trame de base, elle se met à jour tout le temps. Donc, je pense qu'on finira, même si c'est un genre finalement qui a un petit peu disparu des sitcoms, je dirais, sans contexte particulier. On en voit de moins en moins, un truc avec juste des célibataires à New York. C'est un truc qui a un petit peu disparu. Donc, à voir si ça revient.
Quelle morale on peut retenir de la série ? Alors moi j'ai noté « La fin n'est jamais satisfaisante sauf dans Les Sopranos
parce que ». Et vous encore, en pensez... pas pour tout le monde.
Si.
Enfin, moi j'aime.
Écoute, je suis assez d'accord avec toi. C'est que je pense qu'en tout cas, une sitcom doit apprendre aussi à s'arrêter au bon moment. Ce qui est très difficile, parce que quand il y a le succès, quand il y a les fans, on est tous hyper tristes quand une série s'arrête au bout de la saison 4 ou 5. Mais si ça lui permet d'être parfaite, au final, avec un peu de recul, on se dit que c'est pas plus mal. Et effectivement, How I Met a été un peu trop loin dans ses saisons et un petit peu traîné en longueur. Donc, s'arrêter un peu plus tôt, parfois, c'est bien aussi.
David ?
Ouais, c'est le problème de la sitcom qui est incompatible avec la fin, en fait. C'est pas censé finir parce que les personnages, par nature, n'évoluent pas. Donc, alors que, justement, le principe narratif, c'est de faire évoluer ton personnage. Donc, en fait, soit tu fais le choix de faire évoluer le personnage et du coup, tu vas vers quelque chose qui est plus dramatique. Moi, je trouve le gros problème de Remet, c'est de ne pas avoir vraiment choisi entre les deux et d'avoir un peu fait les deux et d'avoir paniqué sur le final. Et à l'inverse, moi, je trouve une des fins de sitcom que je préfère, alors qu'elle est quand même assez décriée, c'est la fin de Seinfeld, qui pour moi est une...
Le procès.
Voilà, une morale qui fait reconsidérer tout ce qu'on a vu au fil des saisons, qui est un peu agressif pour le spectateur, mais qui est très efficace et très intéressante. Mais voilà, c'est la morale, je pense, c'est très compliqué de finir une sitcom.
Et je crois que la fin de How I Met a gagné le prix de la pire finale de l'histoire de la télévision.
Ça a énervé les gens.
Je crois que les gens s'en sont pas remis. Bon, je crois à l'époque, la fin de Seinfeld avait été traitée à peu près de la même façon.
Oui,
comme
ça.
Quoi, ça fonctionne toujours un peu pareil. C'est qui aujourd'hui les héritiers de How I Met ? Aurélia, toi, tu dirais quoi ?
Moi, j'avais pensé, c'est un peu difficile de trouver des héritiers dans ce genre d'univers.
Direct, c'est dur,
mais j'avais pensé à New Girl, qui pour le coup nous emmène plus à Los Angeles, mais vraiment, tu retrouves ce groupe de potes. Bon, là, c'est vraiment une grosse coloc. Mais c'est aussi dans l'écriture des personnages. Voilà, ils sont tous assez excentriques. Il y a une espèce de Barney dans le groupe. Enfin, toute cette bande de potes, pour moi, peut me rappeler un peu How I Met Your Mother.
David.
Ouais, j'avais aussi noté New Girl. Sinon, dans d'autres genres, je trouve dans les sitcoms qui peuvent s'y rapprocher, ça serait Big Bang Theory d'un certain côté, avec un personnage qui sort vraiment du lot et qui a une excentricité qui fait que les rapports de personnages ne sont pas justement équilibrés comme dans Friends.
Une série que pareil ne sait pas s'arrêter.
Ouais, ça c'est autre chose. Et un petit côté Brooklyn Nine-Nine aussi, où je pense que le personnage principal doit beaucoup à Barney. Voilà, on est un peu dans le prolongement, mais effectivement, les pures séries, les célibataires à New York, où sont-elles passées?
Où sont-ils? Où sont les célibataires de New York? Ça reviendra sans doute. J'avais noté aussi que ça nous a quand même ouvert à Jason Segel grand les portes d'Hollywood, et donc de Sans Sarah Rien ne va, qui est un chef-d'œuvre. On doit au moins ça à I Met Your Mother. Bravo à elle. C'est la fin de ce flashback. Merci à tous les deux d'y avoir participé. Au I Met Your Mother, on l'a dit, c'est à découvrir, on redécouvrir sur Star, la nouvelle plateforme de Disney+, le sponsor de cet épisode. D'ailleurs, toujours sur Star, vous pouvez aussi, tant qu'à faire, découvrir New Girl, une série dont on a causé dans cet épisode. Merci à Mathieu qui était à la technique, binge.audio pour retrouver tous nos épisodes et tous nos podcasts, et à très vite pour un nouvel épisode.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.